17h46, Marc Legault, commentaire sportif du jour. Salut Marc!
Salut Mario!
Vladimir Guerrero, intronisé au Temple de la Renommée à Cooperstown hier, s'est souvenu même de Montréal.
Oui, bien, il avait pas le choix. Il a eu ses meilleures années avec les Expos. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui étaient déçus, des amateurs des Expos, qui n'aimaient pas la casquette trois couleurs. En fait, il n'a pas joué dans le temps de la casquette trois couleurs, mais la casquette bleu, blanc, rouge des Expos. Parce que c'est vrai que ses chiffres, quand on regarde sa carrière, ses chiffres ont été meilleurs à Montréal. C'est là qu'il s'est fait un nom. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le Temple de la Renommée discute avec le joueur avant justement de faire sa plaque, tout ça. Et en bout de ligne, c'est le Temple de la Renommée qui a le dernier mot, à savoir quelle casquette le joueur va porter. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs années, il y a certains joueurs qui monnayaient ça. Lorsqu'il était en fin de carrière, il pouvait signer un contrat, par exemple, avec une équipe comme les Rays de Tampa Bay ou peu importe, et en disant, ben écoutez, lorsque je vais entrer au Temple de la Renommée, c'est sûr que je vais y aller, je vais mettre la casquette, mais ça me prendrait 2-3 millions de plus. Puis il y a des clubs qui étaient prêts à acheter ça, puis le Temple de la Renommée a dit, ça fait pas de sens, là, c'est une vraie farce. Donc, on va décider, nous, en discutant avec le joueur. Puis, si on regarde la carrière de Guerrero, ben il a participé 4 fois aux séries en 6 ans avec les Angels d'Anaheim. Et puis, il a été élu le joueur le plus utile de la Ligue américaine aussi à sa première année là-bas. Donc, c'est pas vraiment une surprise qu'il entre au Temple de la Renommée avec cette casquette-là. C'est le choix du joueur. Et c'était correct. Mais tu le dis, il a mentionné Montréal, il a mentionné Philippe Alou. Il n'a pas mentionné grand-chose dans son discours. Ça a duré un peu plus de 3 minutes. Là. C'est rare qu'on voit ça, parce qu'habituellement, c'est beaucoup plus long. Les joueurs en profitent pour parler de tout le monde. Mais Guerrero, c'est un homme de peu de mots. Il l'a démontré tout au long de sa carrière. C'était pas pour changer à cause qu'il était intronisé au Temple de la Renommée. Mm-hmm. Mais malgré tout, c'était une belle journée, un soleil de plomb. Et surtout, lorsqu'on voyait une image des partisans, tout ça, beaucoup de casquettes et chandails des Expos.
C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un beau moment. Ça fait tout le temps revivre l'espoir qu'entretiennent certains partisans de revoir un jour les Expos Montréal. Plus on en parle partout, il a encore glissé un mot dans son discours, comme tu le dis. Dustin Johnson, au golf, remporte l'Omnium canadien sur le parcours de Glen Abbey.
Oui, et je te dirais, à défaut d'avoir un Canadien qui remporte le tournoi, c'est peut-être le Canadien, le joueur qui était le plus proche d'être un Canadien. Pourquoi? Avec son lien, évidemment, on sait, il est marié à Paulina Gretzky, qui est la fille de Wayne Gretzky. Donc, Dustin Johnson, au Canada, il est très, très connu. Et surtout dans la région de Oakville, où est-ce qu'il était situé le terrain de Glen Abbey, pas très loin de Brantford. Donc, c'est sympathique de voir ça. Les gens l'encourageaient beaucoup hier. Les gens criaient « Let's go, Gretzky » et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé ça intéressant. Et surtout pour l'Omnium du Canada, c'est intéressant de voir un gros nom remporter ce tournoi-là. Et surtout que c'était la dernière année de la formule actuelle, dans le sens que, souviens-toi, il y a plusieurs années, et là, on remonte, il y a des gens qui n'ont même pas connu ça, mais l'Omnium canadien, c'était considéré comme le 5e tournoi majeur de la PGA. Mm-hmm. Il était disputé au mois de septembre. Les gros noms étaient toujours présents. Et là, on a changé la date. On a mis ça au mois de juillet. C'est correct, c'est dans la saison de golf, mais c'est une semaine après le British Open. Il y a plusieurs gros noms qui ne font pas, parce que tu parles d'un décalage horaire et les gens ne veulent pas. Il y a plusieurs gros noms qui ne se présentent pas au tournoi. Puis ça dilue un petit peu le produit. L'an prochain, ça revient au début juin, une semaine avant le US Open. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être un tournoi préparatoire au US Open. Regarde bien les noms l'an prochain. On sera pas loin là justement de ce qu'on retrouve au tournoi majeur. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Dominion Canel.
Absolument. Puis le rouge et noir en fin de semaine, une autre victoire. 4 points au sommet dans l'Est.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore place à l'amélioration du côté du rouge et noir d'Ottawa. Et malgré tout, ils ont une fiche de 4 victoires, 2 défaites. Donc, selon moi, c'est de très bon augure. Et ça me fait penser drôlement à la saison 2015, Mario. Et c'est quoi la saison 2015? C'est la deuxième saison d'histoire du rouge et noir. 12 victoires, 6 défaites. Participation à la finale de la Coupe Grey, défaite crève-cœur contre les Eskimos d'Edmonton en fin de match à Winnipeg. Et moi, selon moi, là, l'édition de cette année ressemble drôlement à cette édition-là. On commence à apprivoiser ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Et comme je te dis, il y a beaucoup de place à l'amélioration, mais malgré tout, on trouve le moyen d'aller chercher des victoires. Puis mine de rien, il y a 2 défaites du côté du rouge et noir. Et les 2 défaites, c'est contre la seule équipe invaincue dans la Ligue, c'est les Stampeders de Calgary. Donc, pour ce qui est du reste, c'est quand même un début de saison très intéressant pour le rouge et noir.
Absolument à suivre. Merci Marc, et on se parle demain matin, même heure.
Salut.
Bonne journée.